Les sports. Les sports.
Allons rejoindre sans plus tarder Mathieu Boulay, journaliste sportif au Journal de Montréal. Bonjour Mathieu.
Allez, salut Marc-André.
Mathieu, gros fin de semaine de tennis hein, après la pandémie, autant du côté de Montréal, Toronto. T'as couvert ça en fin de semaine. Mathieu, c'est quoi un peu ton bilan là du retour là, du tennis là, en sol canadien?
Eh bien, c'est quoi? L'année passée, il y avait eu une demi-présentation du tournoi parce que il n'y avait pas en pleine capacité. Les journalistes couvraient ça à distance, par Zoom. Là, cette année, là, c'était vraiment un retour à la normale. Et les amateurs ont répondu. Parce que t'as au-dessus de 237 000 spectateurs amateurs qui sont déplacés au Parc Jarry lors des festivités à partir du vendredi 5 ou jusqu'à la finale. Il y a eu du monde, Marc-André, partout sur les courts. Moi, je me souviens, il y a eu un match que les gens étaient déçus parce que il devait être présenté sur le court principal, mais il était présenté sur un court secondaire, celui de Nick Kyrgios contre Alex de Minaur, son compatriote australien. Et ce match-là, là, les imagines, tu étais déçu sur le central, mais tu aurais dû voir le monde qui ont été sur le court Rogers, qui est un petit peu de moins grande capacité, c'était plein au bouchon. Ça veut dire que les amateurs connaissent le tennis, et surtout, il y avait faim de grands rendez-vous en fin de semaine. Et là, malheureusement, avec l'élimination de Félix Auger-Aliassime, l'élimination de Nick Kyrgios, qui étaient vraiment les deux dernières vedettes du tableau principal, ben là, on s'attendait à une fin de semaine un peu plate. Je dois te dire, moi-même, j'étais un peu de même avec mes collègues du bois. Ça va ressembler à quoi? Mais la fin de semaine m'a fait mentir, m'a confondu, parce que tu as eu un match de demi-finale extraordinaire entre Dan Evans et Pablo Carreño Busta, qui a remporté le match hier de la finale. Mais ces deux gars-là, là, moi, là, les gars sont pas bien classés, ils sont pas dans le top 10 mondial, mais ils ont tout donné sur le court et ils ont joué ça en trois manches. C'était excitant au possible. Et la finale, même la finale aussi, Marc-André, que je peux te dire que la finale aussi m'a un peu surpris parce que je pensais vraiment que Rkach, avec son service, ses petites volées au filet, aurait dû l'emporter assez facilement. Mais Pablo Carreño Busta, c'est tout un gars qui a une résilience incroyable. Et on l'a vu aussi, c'est que Pablo Carreño Busta a gagné le tournoi, mais il mérite pleinement ce tournoi-là. Oublie pas, lors de son parcours, il a battu Rkach, mais il a battu aussi un gars comme Matteo Berrettini, 11e favori, mais un exact. Des top mondiales. Il a battu également un gars comme Yannick Sinner, demi-finaliste à Wimbledon. Le gars, là, il s'est présenté à Montréal avec l'intention de tout donner, et les résultats sont là. Ben malheureusement pour Rkach, moi, je pense que Rkach a manqué de gaz, a manqué de descente dans le réservoir, alors que Carreño Busta a vraiment imposé son rythme, a imposé sa façon de faire, des longs échanges en fond de cours. C'était beau à voir. Puis Carreño Busta, je suis tellement fier et content pour lui. Premier Masters en carrière. Puis il l'a dit lui-même, il dit, les meilleurs joueurs, certains joueurs, meilleurs joueurs au monde, n'en remporte pas de Masters. Moi, j'en ai remporté un. Fait que, tu sais, le gars, il était comme content. C'est son 7e titre en carrière. On lève notre chapeau à Carreño Busta, mais surtout, l'événement est une réussite totale. Et l'avenir, le futur du tournoi à Montréal, pour les hommes, autant que pour les femmes, est assuré, là.
Et je lisais, là, Mathieu, là, Eugène Lapierre, là, au cours des dernières heures, qui disait que, et puis là, tu me corriges, là, si ça s'applique ça va s'appliquer à Montréal et à Toronto, là, autant du côté des hommes, des femmes, là, d'accès, que le tableau principal de passer de 56 à 96 joueurs, là. Est-ce que ça va être bon autant pour Montréal et Toronto? Est-ce que c'est bon, ce désir-là, là? Est-ce que c'est vraiment également bon chez les hommes, les femmes? Est-ce qu'on a les installations, exemple, à Montréal pour, tu parlais tantôt, là, des problèmes de court de tennis, que les gens, il n'y avait pas assez de place pour tout le monde? Est-ce que tu penses que ça va se réaliser?
Oui, ça va se réaliser parce que l'ATP, en fin de semaine, il y avait des superviseurs, tu sais, pour les matchs puis pour le tournoi en général. Et ils ont dit à Eugène Lapierre, Eugène, ne t'en fais pas, il y a assez de place pour 96 joueurs ici, t'as assez de court, t'as toutes les installations, puis t'as tout le personnel pour accueillir tout ce monde-là. Okay. Là, déjà, en partant, c'est un point positif. Mais là, il faut que tu comprennes, Marc-André, que le 96 joueurs, pour le moment, c'est seulement pour les hommes. Donc, à partir de 2025, 2024, l'année prochaine, ça va être un tournoi comme les autres, à Montréal et à Toronto. Et en 2025, ça va être en 2025, ça va être à Toronto. Et là, ça va partir à 96 joueurs pour les hommes. Et les femmes, là, présentement, ils courent un peu après le train. Le train des hommes qui avait 96 joueurs, là, pour le moment, ils laissent 156 joueurs, joueuses. Et là, ben, on va voir pour est-ce que la WTA va être capable de rattraper les hommes à ce niveau-là. Pour le moment, ça bouge, mais ça bouge tranquillement de ce côté-là. Mais moi, j'aimerais ça aussi voir 96 joueuses pour un sentiment d'égalité et pour découvrir de nouvelles joueuses. Pour donner la chance à certaines joueuses québécoises, canadiennes de se produire dans le tournoi et de peut-être d'avoir des belles histoires. Mais pour les installations à Montréal, Marc-André, là, faut comprendre que Eugène Lapierre est en train de travailler sur un plan pour trouver de l'espace à l'intérieur des locaux et du complexe de Tennis Canada. Le plan, c'est d'avoir une mezzanine supérieure, une création d'une mezzanine à l'intérieur pour placer des bureaux, pour placer des installations supplémentaires pour accueillir encore plus de monde dans les prochaines années. Donc, pour le moment, c'est très positif. Eugène travaille un peu en sous-marin pour le moment, mais c'est ça que j'ai eu comme information. La création de la mezzanine, il a reçu une subvention de 3 millions de dollars du gouvernement fédéral juste avant le tournoi. Là, ça a passé un peu entre les craques du plancher. Le monde n'a pas trop parlé. Mais ce 3 millions-là va servir à ce projet-là pour également, pour assurer le futur du tournoi à long terme, parce que les Masters Mill, eux autres, c'est juste en bas des tournois Grand Chelem. Fait qu'au fur et à mesure que les années avancent, ils veulent pas s'approcher des Grand Chelem, ils n'en seront jamais, mais au moins d'augmenter leur capacité de joueur, d'augmenter leur prestige. Puis ça, c'est vraiment dans ce sens-là, de passer de 56 à 96 joueurs, d'augmenter le prestige, la notoriété des tournois Masters Mill. Et tu sais, veux pas, quand un gars remporte un Masters Mill, il a travaillé très fort, on l'a vu avec Carreno Busta cette semaine, ben ça va être encore plus difficile pour les joueurs dans le futur, là, à compter de 2025 au Canada.
Fait dans le fond, si je comprends bien, Mathieu, techniquement, la première fois qu'on aurait 96 joueurs, ça serait du côté de Montréal, ça serait en 2026. Là, fait qu'il resterait là, 4 ans là, pour mettre ça en place. Là.
C'est ça. Puis à Toronto, pour le moment, qu'est-ce que Eugène Lapierre nous a dit? Lui, là, il se concentre sur sa business à lui à Montréal. À Toronto, est-ce qu'ils ont les installations? Sûrement, avec l'Université York, je pense que moyenné. Et moi, qu'est-ce que j'ai comme information? Au niveau des gestions de match, il n'y a pas de problème. Au niveau des pratiques, des entraînements, évidemment, 96 joueurs, ça demande encore plus de terrain. Mais qu'est-ce qu'il ferait? C'est que les joueurs iraient pratiquer du côté du parc Jeanne-Mance. Il n'y aurait pas de possibilité de ce côté-là. Mais pour le moment, à Toronto, j'ai pas beaucoup d'écoute par rapport à Toronto, mais à Montréal, tout va pour le mieux. Puis Eugène Lapierre est un travaillant. Et tout ce qu'il peut amener de plus au tournoi, il va le faire. Donc, moi, j'ai aucune inquiétude pour l'année du tournoi à Montréal. Puis je lève mon chapeau à Eugène parce qu'il se démène pour en faire un grand événement. Et je peux te dire, moi, j'ai couvert le Grand Prix cette année et l'Omnium Banque Nationale. Puis l'Omnium Banque Nationale a rien à envier à la Formule 1 en termes de prestige, d'organisation et de l'ensemble de l'œuvre. Là, l'impact économique, j'en suis convaincu, est aussi grand que le Grand Prix de Formule 1.
En fin de semaine, Mathieu, au-delà du tennis, l'Omnium Banque Nationale, il y avait également une grosse annonce qui était faite dans le monde de la boxe. On a appris là David Lemieux a annoncé sa retraite. Est-ce que toi tu le classes comment là, tu sais, parce qu'on veut souvent faire on aime ça les classements là, puis les chiffres puis tout ça. On le classe où là dans l'histoire là, puis là, il vient tout juste de prendre sa retraite, là, ça fait même pas 48 heures, mais déjà on est en train de tracer un peu son bilan. On le place où là dans l'histoire de la boxe québécoise?
Ouais, ben moi je pense que Marc-André, on peut facilement mettre David dans le top 10 mondial. Je l'appelle David, excuse-moi de l'intimité, là, mais j'ai couvert quand même 5 ans à travers le monde, dans les grands combats. Je te dis, je connais très bien le personnage, je connais très bien le boxeur. Et moi, je pense que David Lemieux mérite sa place dans le top 10 de tous les temps au Québec. Évidemment, on a des Jean Pascal, on a des Lucien Bouté, on a Dennis Stevenson aussi, faut pas l'oublier, qui a défendu son titre mondial à 7 reprises. 6-7 reprises. Donc, mais David Lemieux est devenu champion du monde. Donc, ça, il n'y a personne qui pourrait jamais y enlever. Moi, qu'est-ce que je retiens de la carrière de David Lemieux? Et j'espère qu'un jour, il va avoir un livre sur lui. C'est que ce gars-là, là, en 2011, là, tout le monde avait jeté l'éponge dans son cas après les défaites qu'il y a eu contre Marc-Antonio Rubio et Joachim Alcine. Je ne sais pas si tu t'en souviens, Oui. Après ça, les articles avaient été dévastateurs. Le mieux, c'est fini. Le mieux aura jamais une grande carrière à l'international. Ben, excuse-là, mais David, il a fermé ses oreilles. Il s'est retroussé les manches. Il a décidé de confier sa carrière à Camille Estéphane comme gérant, à Marc Ramsey comme entraîneur. Et là, il a fait tout un retour. Il a pas perdu de combat à partir du moment qu'il s'est associé à ces deux gars-là jusqu'à sa défaite contre Gennady Golovkin à New York au Madison Square Garden qui était rempli au maximum de sa capacité. Marc-André, je te jure, là, j'étais là-bas au Madison Square Garden, un Québécois contre un Kazakh rempli le Madison Square Garden. Là. Mm-hmm. Il y a peu de les organisateurs n'en croyaient pas leurs yeux. Parce que, ben là, pas un Américain contre un Russe ou un Américain, c'est un Américain qui va remplir la place. Non, c'est un Québécois contre un Kazakh. Mm-hmm. Il y avait beaucoup de Québécois qui avaient été au combat. Évidemment, le combat, ça finit au 8e round, alors que David Lemieux était juste plus capable de prendre les coups de Gennady Golovkin, mais ça avait été un grand événement. Et David Lemieux s'était forgé une réputation internationale après ce combat-là. Et tout le monde avait sollicité son courage. Et à partir de ce moment-là, il y a eu d'autres combats aux États-Unis très payants, avec beaucoup de visibilité. La seule chose, le seul peut-être bémol que j'ai dans la carrière de David Lemieux, c'est qu'il n'a pas été capable d'avoir son fameux rendez-vous contre Canelo Alvarez. On en a parlé pendant 5-6 ans, mais ça ne s'est jamais concrétisé pour plusieurs raisons, dont le poids des deux boxeurs. David, à 160 livres, c'était une torture pour lui de faire le poids. Il a monté à 168 livres, c'était un pari risqué, mais un pari qui a été perdu. Mais malgré tout, qu'est-ce qu'on tient de David Lemieux? Résilience, il est devenu champion du monde, et surtout, il s'est relevé des épreuves sur son chemin à travers sa carrière. Mmh.
Mais Mathieu, l'être humain a horreur du vide. Là, c'est qui le boxeur sans David Lemieux? Là, c'est qui le boxeur numéro un au Québec présentement? Là, c'est qui sur qui la pression va retomber dans les prochains jours?
Ben, je te dirais là, pour le moment là, j'ai de la misère à dire, hey, on en a un là, un là. C'est un pari, c'est sûr et certain qu'il va devenir champion du monde. Pour le moment, le gars qui est champion du monde, c'est Oscar Rivas, t'as Marie-Ève Duquet qui est championne du monde, t'as Kim Clavel qui est championne du monde, t'as le poids lourd Arslanbek Mahmoudov qui vient de signer une entente avec Top Rank pour avoir des grands combats dans les prochaines années. Est-ce que je suis sûr à 100% que ça va donner des grands champions qui vont se battre dans les grands combats? Pour le moment, je peux pas te dire oui. Parce que Kim, autant que Marie-Ève, là, des fois, les combats chez les femmes, il y a moins de bassins de boxeuses, donc l'adversité est un petit peu moins grande. Puis l'autre cas, au bout de Oscar Rivas, ben pour le moment, comme champion, il y avait la première défense de titre n'a pas été réalisée encore. Pour qu'est-ce qui est des boxeurs d'Air Tiger Management, t'as des Aslam Mahmoudov, mais on pense au Français Christian Billy, qui peut être une belle carte de visite pour le promoteur Camille Estéphane. Mais pour le moment, Marc-André, je dois dire que là, c'est un peu dans le néant, parce que je peux pas te dire, hey, c'est qui la prochaine grande visite au Québec? Ça se forge avec les grands.
Mais c'est intéressant. En fait, dans le fond, ça va être à suivre, puis il peut y avoir plusieurs prétendants. Mathieu Boulay, journaliste sportif au Journal de Montréal. Go, merci Mathieu, et on se reparle demain.
On se parle demain sans faute. Merci Marc-André, salut.
Bye bye. Sinon, pour nous, c'est tout pour aujourd'hui, et on se redonne rendez-vous demain, 15h. Bonne soirée.